بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le 2 du mois d'Al-Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 19 avril 2026. Nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture du livre de l'imam Al-Qayyim, qui est une lettre adressée à un de ses frères. On s'est arrêté sur ce passage dans lequel il dit « وَقَدْ اشْتَرَى سُبْحَانَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَجَعَلَ ثَمَنَهَا الْجَنَّةِ » Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a acheté des croyants leurs âmes. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ Comme Allah dit dans le verset. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens pour qu'en échange, il leur fit don du paradis. Donc c'est ce qu'il dit ici. Allah subhanahu wa ta'ala a acheté des croyants leurs personnes, leurs âmes, et il leur a promis contre cela le paradis. Wa ajra hadha al-aqd, ce contrat entre Allah subhanahu wa ta'ala et les croyants a été fait par l'intermédiaire de son messager et de son khalil, et qui est aussi le meilleur de ses créatures, il dit. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui a été rapporté à ce sujet, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a conclu ce pacte entre lui et les croyants par le biais, par l'intermédiaire de son messager, alayhi salatu wassalam, qui est son khalil, yani le khalil, comme vous savez, c'est celui qui est arrivé dans l'amour d'Allah au degré le plus élevé. Al-Khalil, Al-Khulla. Il n'y a que deux hommes qui sont arrivés à ce degré, c'est Ibrahim alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fasil'atu rabbi samawati wal ardi fasil'atun rabbu samawati wal ardi mushtariha wattamattu'u bin nazari ila wajhihi al-karimi wa sama'i kalamihi minhu fi darihi thamanuha. Donc, cette marchandise que le Seigneur des cieux et de la terre a achetée, et dans le prix, yani cette marchandise que le Seigneur des cieux et de la terre a achetée en contrepartie de la vue de son visage sublime et d'écouter sa parole dans sa demeure, en parlant du paradis, et le prix qui est donné par le croyant. Donc le croyant, tous ses efforts, tous ses sacrifices, en voulant had, la contrepartie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis, pour sa sincérité, pour son tawhid, pour son suivi du messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis, en contrepartie de cela, sa vue dans le paradis, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, et de parler de vive voix avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa demeure qui est le paradis. وَمَنْ جَرَى عَلَى يَدَيْهِ الْعَقْدُ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Et celui qui a été l'intermédiaire dans ce contrat et dans ce pacte, c'est son messager, alayhi salatu wassalam. كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس؟ Allahu Akbar. Alors, est-ce qu'il convient à ce moment-là, avec tout ce qu'il vient de citer, yani, cette marchandise qui vaut cher et la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le paradis. Est-ce qu'il convient aux croyants doués de bon sens et de bon raisonnement de la négliger et de l'abandonner et de la vendre contre un prix bas, un prix vilain? Et donc, ça c'est une mauvaise affaire. Ça c'est une mauvaise affaire. C'est pour ça qu'il a dit في دار زائلة مضمحلة فانية وهل هذا إلا من أعظم الغبن. Donc, est-ce qu'il convient à l'homme sensé, doué de bon raisonnement, de laisser passer cette grande affaire et ce commerce gagnant et de le remplacer par un prix vilain, un prix bas, mauvais marché? Yani des envies de dunya. Il laisse passer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis fil akhira. Il y en a des fois, la personne peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir des choses de dunya sans valeur. Car dunya ya ikhwa, depuis son début jusqu'à sa fin, avec tout ce qu'elle a contenu, ne vaut pas l'aile d'un moustique. Que dire de ce que tu vas prendre de cette dunya en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas de doute que ça, c'est une mauvaise affaire et c'est une affaire perdante. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ لَهُ هَذَا الْغُبْنُ الْفَاحِشُ يَوْمَ التَّغَابُنُ. Mais quand est-ce qu'il réalisera cette grosse perte? Il la réalisera, la perte ici c'est le rubn. Ou le rabn. Quand est-ce qu'il va réaliser ce rabn? Le jour de Tarabun. C'est pour ça que le jour de la résurrection s'appelle parmi ses noms At-Tarabun, Yawm At-Tarabun. Car c'est le jour dans lequel les gens vont réaliser les mauvaises affaires qu'ils ont fait et les grosses pertes qu'ils ont eues. Dhalika Yawm At-Tarabun. Comme Allah a dit dans le Coran. Ensuite, il a dit إِذَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُ الْمُتَّقِينَ وَخَفَّتْ مَوَازِينُ الْمُبْطِلِينَ. Le jour de Tarabun, c'est le jour où les balances des vertueux et des pieux seront lourdes en bonne action et les balances des gens de l'égarement et de la déviance seront légères en bonnes actions. Mais par contre, lourdes en sayyi'at. Nas'alullah salam wa l'afim. Yani, surat al-Taghabun. Allah Azza wa Jal dit, dans cette surah, au sujet de ce jour, dans le sens approximatif, le jour où il vous réunira, jour du rassemblement, ce jour-là, Ce sera le jour de la déception et de l'échec absolu et de la perte irrattrapable. C'est comme ça qu'Allah décrit ce jour dans le Coran. Il a dit « Yawma yajma'akum li yawmi al-jam'i, dhalika yawmu at-taghabun ». Le jour où les gens vont montrer leur déception et leur regret. Mais le regret ce jour-là ne sera d'aucune utilité. Ensuite, il a dit, Faslun, إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة. Si tu as compris ce qui a été cité précédemment, dans ce cours et dans le cours précédent, alors sache que اللذة التامة Yani le vrai plaisir, le plaisir complet, le plaisir parfait, c'est quoi ? والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم. Et aussi, c'est quoi la joie et le bonheur ? C'est quoi la bonne vie et les délices ? إنما هو في معرفة الله. En réalité, tous ces sens se trouvent dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tous les hommes cherchent le bonheur dans cette dunya. Kuffar comme muslimin. Si tu rencontres un kafir, tu lui demandes qu'est-ce que tu cherches dans cette dunya, il va te dire qu'il cherche le bonheur. Mais ils n'empruntent pas les mêmes chemins pour parvenir au bonheur. Tous les hommes, croyants comme mécréants, tous dans cette dunya, leur quête, c'est le bonheur. C'est de trouver le bonheur. Mais après, leur chemin vers ce bonheur ne sont pas les mêmes. Il y en a pour qui le chemin du bonheur, c'est l'amassement des fortunes et des richesses et de l'argent. Lakin, l'argent ne fait pas le bonheur, comme disent le Koufa, mais peut y contribuer. Et subhanallah, parmi les choses que j'ai entendues d'un homme kafir, il est extrêmement riche, il est un milliardaire, parmi les hommes les plus fortunés de la planète. Il a dit, en rappelant ce proverbe, que le bonheur ne fait pas l'argent, mais y contribue. Il a dit, l'argent contribue dans le bonheur à une certaine limite. Après, quand arrive un degré de richesse, yani, ça ne fait plus la différence. Que tu aies 200 milliards ou la 300 milliards, c'est pareil. Qu'est-ce que tu vas faire de plus ? Tu arrives à un degré où tu as tout fait avec l'argent. Yani, a de l'argent, même le fait de dire qu'il contribue dans le bonheur, c'est dans une certaine limite. Lakin, les gens qui n'ont pas du tout d'argent, comme nous, ils veulent acheter une maison. Moi, ils parlent de quelqu'un qui a acheté la maison, qui a acheté les voitures, il a tout fait. Yani, il a encore plus d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le manger ? Là, on veut manger des plats, on veut aller bâcher un nebzaf. Huma, ils ont tout fait. Il a dit, on arrive à un degré dans la richesse où ça ne fait plus la différence. Est-ce que tu as ça ou là, plus ou moins, ça ne fait plus la différence. Subhanallah. Et en réalité, le bonheur, il n'est pas dans l'argent. D'autres, ils pensent que le bonheur, c'est aller dans les sorties, dans les voyages, dans la pratique du sport, ou le moyen. Les voies sont multiples, mais la voie du bonheur, en réalité, elle est unique. Elle est dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé. Et plus tu vas connaître Allah, plus tu vas être épanoui. Un épanouissement que ne connaissent pas les milliardaires et les hommes fortunés. Un bonheur que ne connaissent pas les riches. C'est pour ça, Ibrahim ibn Adham, parmi les ascètes, il répétait cette phrase, il disait « لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف » Il disait « Si les rois et les fils des rois savaient dans quel bonheur on est, ils nous auraient combattus avec les épées pour l'avoir. » Lakin, ça ne peut pas. On ne peut pas te l'arracher, on ne peut pas te le retirer, c'est dans ton cœur. Il ne le voit même pas. Et aujourd'hui, on nous aurait combattu avec l'arme nucléaire pour l'avoir. Et ils ne peuvent pas l'avoir, même avec ça. Allah al-Musta'an. Had le bonheur, il est proportionnel à ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta connaissance de sa législation et de son suivi. L'ilm, comme vous savez, ce n'est pas un objectif en soi-même. C'est un moyen pour adorer Allah. Inna ma huwa, il a dit le bonheur en réalité, il est, réside dans la connaissance d'Allah et dans son unicité. Et dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, se sentir proche. Subhanallah, le croyant, il peut passer par dans des moments de sa vie où il se sent proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sent un bonheur, un épanouissement indescriptible avec les mots. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fait goûter had le bonheur dans le dunya. Déjà pour qu'il réalise le bonheur de l'akhira. Le bonheur de l'akhira, c'est ce bonheur multiplié et continu. Et il ne fait qu'augmenter. Il ne fait qu'augmenter. Hada huwa celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala accordera le paradis. Wa ash-shawqu ila liqa'i. Et ce bonheur aussi, c'est dans l'attachement et l'envie de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, comme vous savez dans le hadith, le croyant ne souhaite pas la mort. Le croyant ne souhaite pas la mort. Car le meilleur d'entre nous, c'est celui qui vit le plus longtemps et que ses œuvres soient dans la piété. Nabi Rasulallah a dit « Khayrukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu ». Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui vit le plus longtemps et qui œuvre le plus. C'est pour cette raison que le croyant ne souhaite pas la mort. Parce qu'il il espère rester en vie et se réformer davantage et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage avec ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, c'est ce qu'il fait sincèrement pour Allah, conformément à l'enseignement de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf dans le cas où il craint pour sa religion. Il craint les tentations et les troubles pour sa religion. Alors même à ce moment-là, il ne dit pas « Oh Allah, accorde-moi la mort ». Lakin il dit « Oh Allah, si tu sais que la mort est meilleure pour moi, prends mon âme. Et si tu sais que la vie est meilleure pour moi, laisse-moi en vie. » Allahumma ahini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Car même s'il voit que peut-être il y a des dangers, lakin ça peut être un bien pour lui. C'est pour ça il remet tout ça à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'omniscient. Car le jugement du serviteur, il peut être d'un point de vue tout en négligeant les autres points de vue. Et le bonheur, il a dit ensuite, le bonheur aussi, c'est dans le fait d'avoir tout son cœur et toutes ses intentions autour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce que Allah aime. C'est pour ça dans le hadith, le Nabi alayhi sallam a dit, man kanati al-akhiratu niyata. Man kanat al-akhiratu niyata. Celui dans l'au-delà et son intention. Yani, ce qu'il vise, c'est l'akhir. Dès qu'il se réveille, durant toute sa vie, il vise l'au-delà. Man kanat al-akhiratu niyata. Jama'a Allahu alayhi shamla. Celui dont la préoccupation principale est l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala fera que son cœur sera, ne sera pas dispersé. Il a une affaire dans telle ville, une autre affaire dans telle ville. Allah, il lui donne un rizq qui lui suffit, mais qui ne le disperse pas et qui ne l'éloigne pas de l'essentiel pour lequel il a été créé. Car Allah a dit « Wa ma khalaqtu al-jinna wa l'insa illa liya'budun ». Amma, il dort, il rêve des factures, il rêve. Hada, c'est pas un bien. Et contrairement à ceux, quand ils dorment, ils rêvent de. Et ils récitent le Coran. Et ça, vous le trouvez surtout dans le Katiatib, où il mémorise le Coran. En interne, si tu passes les endroits où les élèves dorment, t'entends certains d'entre eux réciter le Coran pendant leur sommeil. Allahu Akbar. Tellement ils répètent le Coran dans sa journée. Comme ce que vous pouvez voir en France, et ça on me l'a dit, on a des ouvriers qui travaillent en chaîne, pendant leur sommeil, ils font le même geste qu'ils font toute la journée. Ils déplacent, le travail parcellisé. Il fait une petite tâche comme ça. Il dort, on m'a dit, pendant son sommeil, il fait le même geste. Là, toute la journée, il fait le même geste. L'akhor, non, il répète le Coran. Allahu Akbar. Une ni'ma. Donc, dans ce hadith, Nabi Sallam a dit, celui dont la préoccupation principale est l'au-delà, Allah fera que ses affaires, que son cœur ne sera pas dispersé. Et il placera sa richesse dans son cœur. C'est pour ça la vraie richesse, c'est, elle est dans le cœur. La vraie richesse, c'est pas dans ce que nous possédons parmi les biens de ce bas monde. Le riche, c'est celui qui n'a pas besoin de toi. Yani, toi, tu possèdes 1 milliard, lui, il ne possède pas 1 centime, lakin, il n'a pas besoin de toi, il est comme toi. Tu n'as pas de mérite sur lui. Comme a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah. J'a'al Allah ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Et dunya viendra vers lui malgré elle. Car Dunia, c'est une créature d'Allah. Elle agit conformément aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il la fuit et elle le suit. C'est pour ça que certains salafs disaient, Dunia, c'est comme une femme. Dunia, c'est comme une femme. Si tu la fuis, elle te suit. Et si tu la suis, elle te fuit. Hada wallah alam, c'est vrai. Ensuite, il a dit, فَإِنَّ أَنْكَدَ الْعَيْشِ عَيْشُ مَنْ قَلْبُهُ مُشَتَّتْ. Il a dit, la vie la plus pénible, la vie la plus amère, la vie la plus dure et difficile, c'est la vie de celui dont le cœur est dispersé. Éparpillé. Il y en a certains croyants, quand ils viennent le soir pour dormir, il met sa tête sur son oreiller, il dort instantanément. Ma andouch le mashakil, ma andouch le humoum. Hada, c'est parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Contrairement à l'autre qui est riche, qui a beaucoup de fortune, lakin, il n'arrive pas à trouver le sommeil qu'avec des médicaments. Et même en prenant des médicaments, il fait des cauchemars. وَهَمُّهُ مُفَرَّقٌ فَلَيْسَ لِقَلْبِهِ مُسْتَقَرٌ يَسْتَقِرُ عِنْدَهِ وَلَا حَبِيبٌ يَأْوِي إِلَيْهِ وَيَسْكُنُ إِلَيْهِ كَمَا أَفْصَحَ الْقَائِلُ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَمَا ذَاقَ طَعْمَ الْعَيْشِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ Habib ilayhi yatma'innu wa yaskunu. Yani, il a cité ce vers dans lequel le poète il parle de quelqu'un, d'un homme qui n'a pas un bien-aimé. Celui qui n'a pas de bien-aimé vers lequel il revient et auprès duquel il trouve la sérénité. Ça, c'est comme les célibataires. Yani, il ne trouve pas de. Auprès duquel il ne trouve pas de sérénité ni de repos, celui-là, il a dit, il n'a pas goûté à la bonne vie. Il n'a pas goûté à la bonne vie. Alors que dire, ça en général les poètes, ils parlent d'une femme. Alors que dire que quand ce bien-aimé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne se sent pas proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas ce sentiment de proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'a pas ce khushu quand il accomplit ses adorations, quand il fait sa salat, il est devant Allah, il parle à Allah subhanahu wa ta'ala, son bien-aimé, absolu. Il lit le Coran, il lit la parole de son bien-aimé, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas ça, il ne connaîtra pas la bonne vie, comme bien même il a toutes les fortunes de la planète. Il a tout ce que les gens désirent parmi les choses mondaines. L'homme, Allah l'a créé comme ça. Il ne trouve la sérénité, ni la quiétude, ni l'épanouissement qu'avec son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il a cité un autre vers dans lequel le poète il dit Naqqil fu'adaka haythu Naqqil fu'adaka haythu ma shi'ta min al-hawa mal hubbu illa lil habib al-awwal كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي.
Donc ça c'est aussi pour faire allusion au premier amour et que le premier amour reste, يعني marque la personne. Moi, هذه c'est une parenthèse, يعني que l'imam Ibn Al-Qayyim cite ici. يعني ils disent que le premier amour marque la personne. Que ce soit pour les hommes, mais surtout pour les femmes. Mais surtout pour les femmes. Anna, la femme, restera marquée en général par son premier mari. Et nous, notre amour, c'est pour notre première demeure. Notre première demeure qui est le paradis, qui est Al-Jannah. Car nous étions dans Al-Jannah, Adam alayhi salam était dans le paradis. Et il est sorti du paradis, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé sur terre. Lakin, c'est une sortie temporaire. Et c'est durant cette épreuve de dunya, l'objectif est de revenir vers notre première maison, vers notre première demeure, Al-Jannah. Qu'Allah nous le facilite à tous. Ensuite, il a dit, « Fahris, ayyakuna hammuka wahida, wa ayyakuna huwa Allah wahda. » Il a dit, « Sois attaché à ce que ton souci soit unique. » Et à ce que ton intention soit unique. Et à ce que ta préoccupation soit unique. Et que cette préoccupation, que ce soit ta préoccupation au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ta religion, seule. فَهَذَا غَايَةُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ Il a dit ça, c'est le summum du bonheur du serviteur. C'est quand il a aucune autre préoccupation que la préoccupation qui concerne sa religion. Quelqu'un parmi vous peut se dire, mais est-ce qu'on parle ici d'un monétisme ou là de quelqu'un qui va s'éloigner de toute chose et il va se consacrer seulement à la religion? Alors qu'on a tous besoin de boire et de manger, de subvenir à nos besoins, et on a tous des factures, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça qui est demandé. Car il n'y a pas de monétisme en islam. La rahbaniyata fil islam. Lakin, ce qui est voulu, c'est l'attachement du cœur à ces sens-là. Quand bien même ton corps, il est dans le dunya. Il est dans le travail. Il est dans la quête de rizq. Lakin, ton cœur, il est avec Allah en permanence. C'est pour ça, parmi les hommes, qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où le soleil sera tellement proche des créatures, le jour où il n'y aura aucune ombre, à part celle-ci, l'ombre du trône d'Allah, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Et c'est pas il laisse son cœur dans la mosquée. Lakin, comme s'il le laissait dans la mosquée. Il sort comme les autres pour aller travailler, pour aller s'occuper de sa famille. Lakin, il a un attachement à la salat en groupe. Il a un attachement à la mosquée, comme s'il laissait son cœur et il sortait seulement son corps. Allahu Akbar. Ça, c'est une métaphore yani, magnifique. Comme s'il laissait son cœur attaché à la mosquée et il sort seulement le corps. Et c'est ça qui est voulu. C'est pour ça qu'ils ont décrit Abu Bakr Siddiq, ils ont dit c'est un homme qui marche sur terre, mais dans le cœur et au paradis. Il est avec les gens, de par son corps. Là, son attachement est très très fort à l'au-delà. Il est au point où il va être comme hanté par cette pensée, cette préoccupation. C'est l'akhira, tout ce qu'il fait. Il donne pour Allah. Il prive pour Allah. Il aide pour Allah. Il aime pour Allah. Il déteste pour Allah. Adawa, le sens qui est voulu. Wallahu alam. Ensuite, il a dit wa sahibu hadhihi al-hal fi jannatin mu'ajjalatin qabla jannatil akhirah wa fi na'imin 'ajil. Il a dit celui qui arrive à cet état où sa préoccupation devient une seule, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui arrive à ce degré, il sera, écoutez ce qu'il a dit, il sera dans un paradis avant le paradis de l'au-delà. Ici-bas, déjà, il est dans le paradis. Il sera dans un bonheur, dans ce bas monde, avant le bonheur de l'Jannah. C'est pour ça, cher l'Islam, il répétait cette parole dans laquelle il disait « Celui qui n'entre pas au paradis d'Allah dans le dunya n'entrera pas au paradis d'Allah dans l'akhirah. » Et ce qui est voulu par le paradis de Dunya, c'est ces sens-là. C'est ce grand attachement à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion. C'est ce grand amour au point où il ne fait passer rien avant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce n'est pas des sens imaginaires, irréels. Les gens les ont dans Dunya. Regardez si vous rencontrez un passionné de foot, un grand amoureux de foot, ou là n'importe quelle autre passion dans laquelle il n'y a aucun bien. Un grand passionné par un chanteur, par un, ce qu'ils disent, comme ils disent, un artiste. Regardez comment vous allez trouver qu'il applique ce qu'on dit vis-à-vis de cette personne. Donc le croyant est plus à même d'être ainsi avec sa religion, avec son créateur. Qui lui a donné tout bien dont il jouit. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout ce que vous avez comme bienfait, il provient d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin d'Allah et de son aide pour respirer. Est-ce qu'on y pense? Nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour regarder, pour voir, pour entendre, pour manger. Tu as besoin d'Allah dans tout. Lakin, à cause de l'insouciance et de la distraction, on ne pense pas à ces choses-là. Surtout à cette époque, on est pris par un train de vie où on ne nous laisse pas le temps de la méditation. C'est pour ça que le croyant, il doit avoir un moment où il s'isole avec son créateur, où il médite sur ses affaires. Lakin, on est à une époque où on ne laisse pas cette possibilité. Mais il faut que tu le fasses. Tu t'isoles des moments où tu t'isoles avec le Coran, la parole d'Allah. Tu lis le Coran tout seul. Et tu médites ne serait-ce qu'un verset. Ce qui compte, ce n'est pas de terminer le Coran en entier, en deux jours, là, trois jours. Lakin, méditer sur un verset, c'est meilleur que de lire le Coran en entier sans le comprendre. Méditer sur un seul verset. C'est pour ça que notre mère Aïcha, et elle n'est pas la seule. Beaucoup de compagnons étaient comme ça. Elle pouvait veiller toute une nuit. Elle pouvait... La blague. Chatelier. Ça lui arrivait de veiller toute une nuit, Qiyam al-Layl, dans la salade de nuit, en répétant un seul verset. Aïcha, radiallahu anha, ça lui est arrivé de veiller toute une nuit, elle répète un seul verset, et elle pleure. Radiallahu anha, wa ardaha. Hada huwa salaf. Salaf, leur objectif n'était pas de terminer le Coran, mais de méditer le Coran et de comprendre le Coran et de le mettre en pratique. C'est pour ça qu'ils ne dépassaient pas 10 versets jusqu'à les mémoriser, les comprendre, les mettre en pratique et d'apprendre toute la science qu'ils comportent avant de passer à 10 autres versets. Et c'est pour ça que vous entendez que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a mémorisé Sourate al-Baqarah seulement en 10 ans. Et que vous entendez à notre époque un enfant qui a mémorisé le Coran en entier en 2 mois, 1 mois et demi, il y a même 1 mois. Lakin, ce n'est pas la même chose. Et allez, ils disent que Cheikh Hafid al-Hakami, rahimahullah, il a mémorisé le Coran en 1 mois. Cheikh Hafid al-Hakami, le grand savant, rahimahullah, qui est décédé jeune à l'âge de 37 ans. Cet homme, quand il était jeune, ils avaient besoin d'imams dans son village. Il n'y avait personne qui mémorisait le Coran. Et ils l'ont chargé de faire tarawih. Qu'est-ce qu'il faisait ? Dans la journée, il mémorisait un juz. Et dans la nuit, il les dirigeait dans salat tarawih avec le juz qu'il a mémorisé durant la journée. Et le lendemain, c'est pareil. Au bout de Ramadan, il a mémorisé le Coran en entier. Il les a dirigés directement dans le salat. Ça, c'est une histoire réelle. Yani. Lakin Hadlam, il était impressionnant dans sa mémorisation. Parmi les anecdotes qu'un de ses élèves nous a rapportées, c'est qu'un jour, il a rendu visite à un grand savant égyptien qui était à Mecca, qui était très ami avec Cheikh Taqiyuddin Hilali, il s'appelle Cheikh Abdelrazzaq Hamza. Et étant donné que c'est un Égyptien, il a reçu le livre de l'imam al-Bukhari, Khalqu Af'al al-Ibad, qui a été édité pour la première fois. Ce livre est sorti pour la première fois. Il a reçu un exemplaire. Et ils lui ont rendu visite chez lui. Et il leur a montré le livre. Cheikh Hafid, rahimallah, lui a demandé de lui emprunter le livre. Au début, il a refusé. Il lui a dit, laisse-le moi juste cette nuit. Demain matin, je reviens avec le livre. Et c'est ce qu'il a fait. Et il est rentré au Haram, Mekki, car ils étaient à Mecca pour faire l'Umrah. Lui, il est originaire du sud de l'Arabie Saoudite. Et durant la nuit, comme son frère a rapporté, il a mémorisé le livre. Il l'a terminé en mémorisation 1 heure avant Salat al-Fajr. Il est arrivé au masjid après Salat al-Isha, jusqu'à 1 heure avant al-Fajr, il a terminé la mémorisation du livre. Ce livre, il est assez grand. Aujourd'hui, il est édité comme ça. Lakin, à l'époque, c'était comme ça à peu près. Il y a plus de 200 pages. Et quand il a remis le livre à Cheikh Abdelrazzaq Hamza, rahimahullah, il lui a dit, voilà, barakallahu fik, je l'ai mémorisé. Il ne l'a pas cru. Il l'a testé sur plusieurs passages du livre. Il lui a dit, qu'est-ce que l'imam Bukhari dit à tel endroit ? Il lui cite le hadith avec la chaîne de transmission. Et effectivement, il l'avait mémorisé. Rahimahullah ta'ala. C'est pour ça que Cheikh Abdullah al-Qarawi l'a choisi et a insisté avec ses parents pour qu'il demande la science. Car ses parents ne voulaient pas qu'il demande la science. Il n'avait que lui pour veiller sur leur chameau. Hadou, c'était une famille très pauvre. Il leur a donné tout ce qu'ils, tout, toutes les choses dont ils avaient besoin pour lui laisser cet enfant apprendre la science. Et c'est devenu ce très grand savant, déjà à l'âge de 37 ans. Il est décédé à l'âge de 37 ans. Les savants ont dit, Allah alam, je ne me rappelle pas qui a dit ça au Cheikh Al-Fawzan ou autres savants, qui ont dit, Anna, si cet homme, si Allah avait décrété que cet homme vive plus longtemps, il serait devenu peut-être comme Cheikh l'Islam Taymiyyah ou quelque chose comme ça. Rahimahullah ta'ala. Alors qu'aujourd'hui, regardez tous les ouvrages qu'il a laissés. Et tous ses écrits, tous ses poèmes profitables et bénéfiques dans la plupart des sciences. Rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Donc celui qui n'a pas goûté au bonheur dans ce bas monde, il ne le goûtera pas dans l'akhira. Celui qui n'est pas entré dans le paradis d'Allah dans ce bas monde, il n'entrera pas au paradis d'Allah dans l'au-delà. Comme certains ont dit, l'imam Ibn Qayyim rapporte ça d'un parmi les salaf qui a dit « Innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqulu in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi aishin tayyib » Certains pieux prédécesseurs ont dit « Je passe par des moments des fois, des moments de bonheur et de sentiment de proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala au point où je me dis si les gens du paradis sont dans un bonheur comme celui-là, c'est qu'ils sont dans une magnifique vie. Et il a cité la parole de l'imam Ibn al-Mubarak, dans laquelle il dit « Masakinun ahlud dunya, kharajou minha, wa ma dhaqu atyaba ma fiha, qila wa ma atyabu ma fiha, qala ma'rifatullahi wa mahabbatuhu, wal unsu bi qurbihi wa shawqu ila liqa'ih. » Donc l'imam Ibn al-Mubarak, il dit, un grand tabi'i, il dit, qu'est-ce qu'ils sont pauvres les gens de ce bas monde. Ils sont sortis de cette vie sans avoir goûté la chose la plus délicieuse et la plus bonne dans cette vie. Ils lui ont dit, c'est quoi la chose la plus bonne et la plus délicieuse? Il a dit, la connaissance d'Allah et l'amour d'Allah et le sentiment de proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Hubbiba ilayya min dunyakum thalath » ou « Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa t-tibu wa ju'ilat qurratu ayni fi s-salat » Donc il n'y a pas un bonheur dans ce bas monde qui ressemble, mais il n'est pas exactement comme le bonheur de l'akhira, mais qui ressemble au bonheur du paradis. Il n'y a pas un bonheur dans ce bas monde qui ressemble au bonheur du paradis que celui-là. Le bonheur de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « On m'a fait aimer de votre bas-monde trois choses. » C'est-à-dire, Allah lui a fait aimer ces trois choses. « An-Nisa'u » il a cité les femmes. « Wat-Tibu » le bon parfum. Oula, le parfum, là, le parfum, il est toujours bon. « Waju'ilat qurratu ayni fi s-salat » Et Allah a fait que, si on peut le traduire comme ça, que la prunelle des yeux du prophète, est dans la salat. La chose qu'il chérisse le plus, c'est la salat. La chose qu'il aime le plus, c'est la salat. فَأَخْبَرَ أَنَّهُ حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا. Donc le Nabi Aslam nous a informé dans ce hadith qu'Allah lui a fait aimer de ce bas monde deux choses. Les femmes et le parfum. Et ensuite il a dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاتِ. Car salat, ça ne fait pas partie des plaisirs de ce bas monde, comme les femmes et le parfum. Lakin, il l'a cité quand même en troisième position. L'imam Ibn Qayyim va expliquer ces choses-là. Il a dit, « Wa qurratul ayni » فوق المحبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم quand il a décrit la salat comme étant la chose qu'il chérisse le plus ou la prunelle de ses yeux, ça c'est un degré supérieur au degré de l'amour. L'amour, il l'a cité par rapport à des choses de ce bas monde, les femmes et le parfum. Lakin pour salat, il a cité quelque chose de plus élevé. Car pas toute chose que t'aimes est forcément comme la prunelle de tes yeux. Mais ce qui est la prunelle de tes yeux, c'est ce que t'aimes au degré de l'amour les plus élevés. Les choses que t'aimes pour elles-mêmes. Et non pas parce que c'est des causes de bien. Tu les aimes pour elles-mêmes. Et ça, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous savez, le seul qu'on aime pour lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète, notre amour pour lui, c'est un amour en Allah. C'est un amour en Allah subhanahu wa ta'ala. طيب هذا الحديث الإمام ابن القيم l'a détaillé d'une manière magnifique et excellente et il convient de le laisser à un prochain cours où on va parler que de ce hadith. يعني حبب إلي من دنياكم ثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام ici a cité les trois nourritures dont chacun de nous a besoin. Il a cité d'abord la nourriture du corps, c'est les femmes. Et ensuite, il a cité la nourriture de l'âme, c'est le parfum. Et en troisième position, il a cité la nourriture du cœur, c'est la salat et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est les trois nourritures dont chacun de nous a besoin pour arriver à ce qui a été cité ici. Donc ça, on va le laisser, inshallah ta'ala, pour la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.